Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Au tout début de l'histoire du christianisme, des hommes ont fait le choix radical d'aller vivre dans les déserts d'Orient, en Égypte, en Palestine ou en Syrie, pour être au plus près de Dieu. Ces hommes, ce sont les tout premiers moines d'Orient, et on les a longtemps imaginés coupés du monde, enfermés dans une ascèse extrême, presque hostile à la raison et à la culture. Et cette image a été largement nuancée par un ouvrage important, publié dans les années 60 et réédité aujourd'hui, Les moines d'Orient, d'André-Jean Festugière. L'historien traduit et commente les récits de vie de ces premiers moines. Et on découvre qu'ils n'étaient pas des fanatiques irrationnels, mais des hommes héritiers de la culture antique qui inventèrent une nouvelle manière de vivre le christianisme. Alors pour en parler, nous avons la grande chance d'être en compagnie de Jean-Pierre Mahé aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, spécialiste du christianisme oriental. Alors on va bien sûr, dans cette émission, retracer la vie de ces moines d'Orient, mais il est important de s'arrêter sur l'auteur qui a longuement étudié leur vie, la vie de ces moines. Il s'agit d'André-Jean Festugière. Il est peu connu du grand public aujourd'hui, mais dans le monde de la recherche sur l'Antiquité, l'histoire de religion, c'est vraiment une figure majeure du XXe siècle.
Oui, le père Jean Festugière, qui a été membre de l'Institut, membre du British Academy, invité en Amérique et directeur d'études à l'école pratique des hautes études.
Un CV brillant.
Était un très grand spécialiste de la pensée chrétienne et du platonisme. Parce que c'est, au départ, c'est un normalien issu d'une famille très, très modeste de la Haute-Marne. Il y avait 9 enfants qui, à la suite d'une retraite à l'abbaye bénédictine de Maritsou, a décidé de se vouer à la vie religieuse. Alors, il a continué ses études dans l'ordre des dominicains. Il a soutenu sa thèse sur Platon et la contemplation et vie contemplative chez Platon.
Et cette thèse a fait date, elle est devenue un
Elle a été soutenue en 1936 et publiée bien longtemps après.
D'accord.
Mais elle a immédiatement frappé l'auditoire. Parce que, vous voyez, ce qui est important, c'est l'orientation de la vie. Vous voyez, on s'oriente vers la contemplation, on arrive peut-être à une vision au bout de cette contemplation, je n'en sais rien exactement, mais ça veut dire un peu ce qu'a dit plus tard Pierre Hadot, la philosophie comme manière de vivre, et non comme système. Il tourne le dos à Marx et à Hegel, en disant ça à cette époque.
C'est pour ça que cette thèse a marqué son auditoire.
Elle a marqué son auditoire. Il était déjà très connu à ce moment-là. Il avait publié plusieurs livres. Après, pendant la guerre, il a été nommé élu à l'école pratique des hautes études en 1943. Et il a continué, je veux dire, jusqu'à la fin de sa vie. Et ensuite, il a été nommé à l'Académie en 1958 ou quelque chose comme ça.
Alors, à côté de sa carrière intellectuelle brillante, c'est un prêtre moine dominicain. C'est un spécialiste de la pensée grecque. Et ce qu'il faut retenir de cet André-Jean Festugière, c'est qu'il a montré qu'il y avait une continuité entre le monde grec et le christianisme. C'est bien ça?
Oui, ça, son premier livre, ça s'appelle « L'idéal religieux chez les Grecs et l'Évangile ». N'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il y a une certaine continuité, ce qui est absolument indéniable. Mais si j'osais dire quelque chose, alors que je ne suis qu'un simple philologue à côté du philosophe et historien qui était le père Festugière, je dirais qu'il y a quand même un filtre entre Platon et les chrétiens, et les auteurs chrétiens, les grands penseurs chrétiens du 3e et du 4e siècle, et puis des siècles suivants.
C'est quoi ce
filtre? C'est le judaïsme hellénistique, c'est-à-dire le judaïsme du Second Temple. Eh bien, durant cette période, il y a des Juifs dans toute la Méditerranée orientale, et jusqu'à même aussi occidentale, à Carthage et à Rome, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir une véritable pensée juive qui se développe en langue grecque. Je ne veux pas dire que les auteurs juifs qui écrivent en grec ne savent pas l'hébreu ou ne savent pas l'araméen. Ils le savent. Mais ils considèrent que la langue de culture, la langue de communication à leur époque, c'est le grec. Et donc, ils vont filtrer, en quelque sorte, une certaine partie des traditions juives. Et ces traditions juives sont récupérées par les chrétiens, très nettement, à partir du 2e et du 3e siècle de notre ère.
On va y revenir plus tard. Alors, pour revenir sur ce livre « Les moines d'Orient », André-Jean Festugère l'écrit au début des années 60. C'est un volume assez monumental.
Il le publie au début des 60 et sous 7 fascicules.
Voilà.
C'est pour ça que l'intérêt, c'est d'avoir mis ces 7 fascicules en un seul volume qui fait plus de 900 pages.
Dans la nouvelle réédition.
Dans la nouvelle réédition.
Publiée en 2025. Ce livre « Les moines d'Orient », donc on l'a dit, il est assez monumental. C'est une sorte d'enquête sur la façon dont ces moines, au tout début du christianisme, vont donc aller vivre dans ce désert oriental. C'est ça qu'on appelle le monachisme oriental ?
Monachisme, ça vient de monakos, si vous voulez, qui veut dire unique, solitaire. L'idée du monachisme, c'est une idée presque métaphysique. C'est-à-dire que par la solitude, par le retranchement, on va retrouver la condition bienheureuse d'Adam, effacer toutes les traces du péché, effacer toutes les traces de la division, de la dualité.
Pour revenir à ces moines, on sait d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils allés dans cet Orient-là ?
Pourquoi on le sait? Parce que justement, les vies des moines d'Orient nous racontent, celui-là était né en Arménie, celui-là était né en Asie mineure, à tel endroit, on nous donne l'origine familiale de chacun des moines et les raisons, ça peut être des raisons de sécurité, par exemple les attaques d'égo, ou bien ça peut être des problèmes personnels qui les ont, ou la soif de voir Jérusalem, ou l'attraction en quelque sorte des grandes métropoles qui les ont attirés. Donc, on sait d'où ils étaient grâce à leur vie. Mais alors, dans les déserts, ça, c'est autre chose.
Oui, pourquoi dans les déserts ?
Eh bien, parce que le problème des moines, c'est d'être... Le nom moine veut dire unique, tout seul, n'est-ce pas ? Tout seul. C'est-à-dire, il s'agit de faire le vide en soi-même, d'abord de s'isoler de la société, de se couper, de se retrancher volontairement et de faire le vide de tous les soucis du monde pour se consacrer exclusivement à Dieu. Eh bien, on estime que si on a des objets visibles, toutes les tracas de la vie qui sont trop proches, on ne peut pas faire cette retraite. Donc, il faut essayer. C'est commode, je veux dire, à Jérusalem, on passe le Jourdain, puis on va dans le désert de Judée. Si vous étiez en Syrie, ça serait nettement plus difficile. C'est pour ça que c'est pratiquement impossible. Hein. Imaginez que vous vouliez vivre en ermite à Monaco aujourd'hui.
Il y a
une solution. La solution serait de faire une colonne et d'habiter en haut de la colonne et de devenir inaccessible comme les saints stylites. Comme ça, au moins, ils espèrent qu'on leur fiche la paix, ce qui est une illusion. Parce qu'en réalité, le seul moyen, c'est de partir pour des pays plus lointains, des montagnes inaccessibles où on les joindra pas.
Donc ces moines, ils se sont réfugiés dans des zones assez désertiques pour fuir les tentations du monde.
Pour fuir les tentations du monde, pour couper les relations humaines, pour penser exclusivement à Dieu.
Mais malgré tout, ce livre d'André-Jean Festugère, il est important parce qu'il vient casser un préjugé majeur qu'on avait sur ces moines qui se retiraient dans une forme d'isolement extrême pour aller se rapprocher de Dieu. André-Jean Festugère, il vient casser ce mythe du moine complètement mystique, coupé de toute vie intellectuelle. Il nuance un petit peu cette idée-là. On peut présenter les choses comme ça ?
C'est peut-être trop unifié, trop général, je dirais, sur la vie monastique. Il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie. On parle d'anachorètes. Des anachorètes, ça veut dire des gens qui se retirent. J'allais presque dire qu'ils prennent le maquis. Ils se retirent, ils prennent le maquis, c'est-à-dire ils ne veulent plus voir personne. Alors, ils peuvent avoir des motifs très, très différents. Ça peut être des bandits, par exemple. Ils ont commis un assassinat, il faut qu'ils se cachent, il faut qu'ils prennent le maquis. Ça peut être des philosophes païens, dégoûté de la philosophie ou sceptique surtout. Il y a un ouvrage d'un certain Eunap qui s'appelle « La vie des philosophes » et qui raconte comme ça. Et puis, ça peut être des ermites chrétiens. Hein. C'est ça le problème. Et c'est ce qui permet à Anatole France de commencer son grand récit Thaïs. En ce temps-là, le désert était peuplé d'anachorètes. Et voilà, et il y en a toute espèce.
Alors, sur ces moines, qui sont-ils exactement? On peut peut-être en citer un ou deux pour donner des exemples aux auditeurs. Il y a par exemple Pacôme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui?
Alors, Pacôme, c'est un des plus importants parce que, voilà, c'est lui qui a inventé la vie dans les monastères. Avant Pacôme, il n'y avait que des ermites. Mmh. Alors, ces ermites, de temps en temps, ils vivaient solitairement, ils pratiquaient leur dévotion tout seuls. Hein. Mais de temps en temps, ils se réunissaient pour écouter une personne d'autorité. La première autorité en la matière, c'est saint Antoine le Grand. En 285, il s'est retiré dans le désert et il est devenu une sorte de maître spirituel pour toutes sortes d'ermites qui se retrouvaient. Et on a appelé cet ensemble, qui n'est pas encore un monastère, puisque c'était des réunions d'ermites, mmh. une laure.
Une laure.
L-A-U-R-E, mmh. n'est-ce pas? Y a encore le mot lavra. Lavra est encore courant en russe, par exemple. Vous avez une laure à Kiev et dans d'autres, bien d'autres endroits aussi, dans la République de Russie. Hein. Une laure. Mais le kénobion, le lieu de vie commune, si vous voulez, le lieu de vie commune, c'est Pacôme qui a créé le premier d'entre eux en 320 à Tabénessis, c'est-à-dire en Égypte, un peu dans le nord du pays.
C'est un modèle de vie communautaire.
C'est un modèle de vie communautaire. Mais là encore, il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas imaginer que la vie communautaire de ces premiers moines ressemble à celle, mettons, des abbayes que nous visitons en France, des abbayes bénédictines principalement, que nous visitons en France, qui ont toutes leur réfectoire, leur dortoir au-dessus du réfectoire, leur cloître pour faire les prières, et dans lesquelles il y a un mode de vie quotidienne qui est uniformisé par la règle. Le règlement des moines d'Occident est quelque chose de très sévère et contraignant, n'est-ce pas? Le règlement des moines d'Orient, c'est la flûte du bon pasteur qui conduit chacune des brebis par un itinéraire différent, je dirais, vers les prairies qui lui profitent le mieux, c'est-à-dire les meilleures pour ses progrès spirituels. Donc, ça veut dire que les uns font de l'ascèse, les autres, il y a évidemment des offices, les autres se contentent de suivre des horaires très fixes et de faire des exercices très spécifiques, mais il n'y a pas de règles strictes. Mm. Hein. C'est l'abbé qui est juge.
Et donc, dans ce premier monastère, avec Pacôme, il est situé en Égypte, sur le territoire égyptien?
Oui, plutôt du côté du delta. Hein,
du côté du delta. Et alors, on va parler quelle langue, précisément?
Eh bien, normalement, on parle grec. Mm-hmm. Mais je veux dire, peut-être que Pacôme lui-même, et peut-être aussi, et sûrement beaucoup de ses moines, parlent copte. C'est-à-dire, il parle une langue dérivée de l'ancien égyptien qui s'écrit avec des lettres grecques. Normalement, ce genre de langue, c'était uniquement pour les horoscopes et pour les philtres d'amour ou bien les sorciers de village. Ils écrivaient comme ça des formules magiques en copte. Et ça a servi à traduire l'évangile. Le même système a servi à traduire l'évangile. Et donc, puisque vous prenez l'avis de Pacôme, il y a une étude qui est jointe, une étude un peu technique, qui est jointe au livre, et qui montre que certains passages de cette vie de Pacôme, écrite en grec, sont littéralement traduits du copte. Mmh. Donc, ça montre qu'il y avait un bilinguisme ambiant. Mais peut-être que le point le plus important sur Pacôme, c'est que, donc, il institue le cénobitisme, c'est-à-dire la vie en communauté.
D'accord.
Ce qui était un moyen de contrôle, quand même, malgré tout. C'est-à-dire, vous savez, les évêques, ils trouvaient que les moines étaient un peu agités, qu'il fallait surveiller un petit peu leurs pensées. Donc là, on est tranquille. Mais surtout, et ça n'est pas souligné dans l'ouvrage, on voit que Pacôme sait lire et écrire, il prend la peine d'écrire un règlement pour son deuxième monastère, quand il fonde un deuxième monastère. Mais en réalité, Pacôme est très important parce que c'est lui qui a édicté que tous les moines devaient savoir lire et écrire. Donc ça, c'est une entorse, si vous voulez, à l'ascétisme brutal. Les moines doivent apprendre à lire et à écrire l'écriture, et c'est ce qui a fait que tout le savoir de l'Antiquité que nous connaissons nous a été transmis par des moines.
Donc en fait, le moine n'est pas un anti-intellectuel, comme la vie d'ascète pouvait laisser penser.
Voyez, repartons d'un texte classique, hein. Donc, le prédécesseur, si je puis dire, bien qu'il ait fait tout à fait autre chose, c'est saint Antoine. Saint Antoine, nous le connaissons par une vie de saint Antoine qui a été un des textes, qui a eu un des succès littéraires les plus extraordinaires qui soient. Pensez à Flaubert, pensez à Jérôme Bosch, ou à un succès, un écho, je veux dire, extrêmement important. Hein. Mm-hmm. Mais... c'est parfaitement impossible, c'est parfaitement fantasmagorique, ces choses qui apparaissent à Saint-Antoine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que certains moines, dans ces histoires, sont présentés comme assiégés de démons, de tous les côtés, des démons les plus pervers, les plus multiformes? C'est tout simplement, je veux dire, les pulsions de l'âme qu'on n'arrive pas à dégager. Alors le problème est de savoir comment il faut faire. C'est un petit peu pour triompher de ses passions. C'est un petit peu comme si on devait guérir un cancer grave. Hein. Vous savez quel est le traitement aujourd'hui, c'est radiothérapie et chimiothérapie. C'est-à-dire, on épuise, on exténue le patient pour tuer la maladie. Hein. Ben, eux, ils vont faire pareil. Ils vont dire, bon, le seul moyen pour vaincre les démons, c'est l'ascèse, encore l'ascèse, les privations,
l'isolement,
dormir debout, ou bien en papillotant des yeux et les bras, enfin des exercices invraisemblables, se priver de nourriture, ne pas, etc. C'est l'ascèse. Et la question qui se pose peu à peu, c'est est-ce que, en fait, l'ascèse est adéquate? Parce que ce que veut le Christ, c'est la vie et le salut. Et il a donné à l'âme humaine la faculté de se rappeler, de comprendre, d'analyser, d'inventer des arts qui permettent à l'âme de s'élever et de se dominer elle-même. Donc, voilà, celui qui a pris le tournant de la raison, c'est Pacôme.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces moines d'Orient ne vivent pas à côté de l'histoire, mais bien dans l'histoire.
Oui.
Ça, c'est un point important qu'il faut retenir. Ils sont même des acteurs majeurs de la vie œcuménique. Et leur existence, l'existence de ces moines, elle est concomitante à un moment assez charnière de l'histoire du christianisme, puisque c'est le temps des grands conciles œcuméniques qui vont préciser l'organisation de l'Église. Parmi ces conciles, il y a le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople. Est-ce que ces moines vont avoir un rôle particulier dans ces conciles-là, dans ce grand moment de la vie du christianisme?
Pas directement, si je puis dire. Pas directement, parce que les conciles réunissent des évêques. En général, pas des chefs de communautés religieuses, si vous voulez, ou de ce genre. Mais alors, la question, vous voyez, qui se pose, c'est que, en effet, le monachisme dont il est question ici est témoin de l'invention, en quelque sorte, de l'orthodoxie. C'est-à-dire que les apôtres, ils sont partis dans tous les coins du monde où ils pouvaient arriver, et ils ont fondé des églises qui, naturellement, pratiquaient toutes, il n'y avait pas d'église polythéiste, ni de choses impossibles. Mais chacune des églises avait sa tradition propre, et matériellement, il n'était pas possible de réunir toutes les églises dans un endroit. Il a fallu attendre la victoire de Constantin. Constantin a été victorieux de tous ses rivaux en 321. Donc, en 325, 4 ans après, il a réuni toutes les églises, d'où le nom de concile œcuménique, pour discuter de la divinité du Verbe divin, c'est-à-dire qui s'est incarné en Jésus.
Donc ça, c'est le concile, c'est le tout premier concile de Nicée.
Et puis alors après, bon, on a discuté de la divinité du Saint-Esprit à Constantinople, puis du concept de Mère de Dieu, savoir si on pouvait appeler la Sainte Vierge Mère de Dieu à Éphèse, et puis après, de l'humanité de la divinité du Christ à Chalcédoine en 451. Et donc, toutes ces nouvelles, toutes ces nouveautés, ces innovations...
Ce sont des nouvelles qui fixent un peu les règles de l'Église, qui vont...
Il y a un volet canonique, c'est-à-dire les règles de l'Église, comme vous venez de dire. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Mais il y a surtout un volet dogmatique. Il faut croire ça. On invente une orthodoxie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, mais ça veut dire qu'elle est définie très précisément.
Voilà, elle est précisée.
De façon juridique.
Donc ça, c'est ce qui se passe avec ces conciles-là. Et vous disiez que les moines d'Orient...
Ils sont à l'extérieur de ça.
Voilà, ils n'y participent pas directement.
Ils n'y participent pas. Mais si vous prenez, par exemple, Saint Hypatios, qui est la première vie dans le recueil, il est à Constantinople. Et par conséquent... Il est à l'époque du Concile d'Éphèse. Par conséquent, il est le témoin du scandale qui a provoqué la réunion du Concile.
Alors, quel est ce scandale ?
C'est-à-dire que le nouvel évêque de Constantinople, qui s'appelait Nestorius, est monté en chaire et il a dit « Distinguons, la Sainte Vierge est mère du corps humain de Jésus, mais elle n'est pas mère de la divinité ». C'est-à-dire du Verbe qui est né avant tous les siècles. Donc, il ne faut pas l'appeler mère de Dieu, mais réceptacle de Dieu. Mmh. Alors, scandale absolu, parce que toute la population de Constantinople était très attachée. D'abord, l'expression mère de Dieu, Théotokos, n'est-ce pas, était très répandue, elle faisait partie de l'adoration populaire et tout le monde était attaché à ce titre. Quelques jours après, un évêque de province qui s'appelait Proclus a pris la parole et il a brisé en 1000 morceaux l'argumentation de Nestorius en disant qu'elle était la mère de Dieu, que ça ne pouvait pas lui être enlevé, que l'humanité, ce n'était pas une enveloppe du Verbe, mais que le Verbe s'était fait chair en vrai et qu'il resterait toujours avec son corps jusqu'à la fin des temps.
Et alors, quelle est la réaction d'Hypatius face à ce scandale ?
Hypatius, il entend parler de ça à l'extérieur, et il recueille, en quelque sorte, des échos très défavorables sur la personnalité de Nestorius. Mais on essaye de lui poser des questions à ce sujet, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il est contre. Il est contre, il est... Je veux dire, on voit bien que dans les débats contemporains, il y a des gens qui sont pour ou contre quelque chose. Ils ne sont pas forcément renseignés d'une façon très précise sur les choses qu'ils... Bon. Et on s'aperçoit que les moines, finalement, comme ils étaient pour la mère de Dieu, ils ont obligé l'empereur, qui n'avait aucune envie de faire ça, à réunir un nouveau concile qui a été dirigé de loin, je veux dire, par Cyril d'Alexandrie et qui a défini le concept de mère de Dieu et qui a d'ailleurs provoqué une première division à l'intérieur de l'Église entre ceux qui acceptaient et ceux qui refusaient. L'Église d'Orient, vous voyez, c'est-à-dire ceux qu'on a appelés les Nestoriens, qui sont les chrétiens qui sont allés dans l'Empire perse, etc., se sont détachés de ce dogme.
Donc, en fin de compte, ces moines d'Orient ont eu une influence...
Ils ont eu une influence parce qu'ils étaient le poids. Ils étaient, en quelque sorte, le bras armé de l'opinion publique. Vous voyez ? C'est ça.
Est-ce qu'on peut citer d'autres exemples d'influence qu'ont pu avoir ces moines d'Orient ? Là, vous avez donné un exemple avec Hypatius. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Aussitôt après, il y en a un, c'est Eutyme. Mm-hmm. Alors, Eutyme, c'est un Arménien qui est né en Asie mineure. Mais ça veut dire dans une région qui faisait partie de l'Empire byzantin. Eh bien, à ce moment-là, il y avait plein d'hérésies, les Ariens, etc., etc. Alors, son nom, Eutyme, ça veut dire « bon courage ».
Bon courage.
Et c'est sa mère qui l'a appelé « bon courage », en espérant que la situation de l'Église s'améliorerait. Et il s'est installé à Constantinople, et après, il est allé en Terre Sainte. Et en Terre Sainte, il est témoin de querelles absolument indicibles, hein, qui sont fomentées par le patriarche d'Alexandrie. Le patriarche d'Alexandrie, c'est une très haute autorité. Alors, à cette époque, il s'appelle Timothée Élure. Timothée Élure, ça veut dire le chat. Vous voyez, pourquoi il s'appelle chat? Parce qu'il est tout petit. Il s'appelle Timothée le chat. Et il ne faut pas s'y tromper, il griffe très fort. C'est-à-dire, il a tué son prédécesseur, qui était pour le concile de Chalcédoine. Il s'est instauré, il fomente toute espèce de violence et il essaye d'agiter les moines. Mmh. Et Eutyme joue au contraire un rôle modérateur. Ils ont joué un très grand rôle dans l'acceptation des dogmes.
Il contribue à une forme de christianisme, en fait, assez actif.
Assez actif, c'est ça.
À une époque où l'Église est en train de définir ses règles et ses dogmes.
D'où vient leur autorité? C'est que, 321, Constantin a vaincu tous ses disciples. Et au lieu de proclamer que la religion chrétienne est officielle, il fait une seule chose qui est absolument géniale et qui stupéfierait les syndicats actuels.
Quoi donc?
C'est-à-dire, c'est lui qui a inventé le repos du dimanche. La semaine et le repos du dimanche. Il dit, désormais, tout le monde se reposera
le dimanche.
Le dimanche, enfin, le huitième jour. C'est parce que, après le Shabbat des Juifs, n'est-ce pas? Le dimanche. Donc, il a inventé, si vous voulez, la paix de l'Église, grâce à ça. C'est-à-dire, il n'a pas été maximaliste dans ses demandes, sinon les païens se seraient fâchés, il y aurait eu des révoltes, il y aurait eu des histoires. Il a simplement institué le repos du dimanche et arrêté toutes les persécutions contre les chrétiens. Donc, il n'y a plus de martyrs. On ne peut plus être martyrisé. Les lions sont absolument écartés. Donc, la seule forme de vie chrétienne héroïque, c'est le monachisme. Donc, la gloire des martyrs, elle vient aux moines d'Orient, puisqu'ils continuent la vie entièrement sacrifiée au Christ. Et ils disent, le martyr, au fond, c'est un mauvais moment à passer, parce qu'un lion a vite fait de manger ce qu'il doit manger, ou de tuer, ou de manger ce qu'il doit faire, tandis que nous, nous mourrons tous les jours. Nous mourrons tous les jours et pendant des années. Donc, vous voyez, ils sont parés d'un prestige spécial à cause de leur vie ascétique et à cause des miracles qu'on leur impute. Alors, c'est les miracles qu'on leur impute, c'est des guérisons, et souvent des guérisons qui, naturellement, proviennent de maladies causées par des démons. Alors, on voit, par exemple, Saint Pacôme, un père de famille, lui présente un petit garçon qui est occupé par un démon, ça va très mal. Alors, Pacôme dit, c'est pas très difficile, tiens, je te donne un pain béni, et tu le donneras à l'enfant, etc. Mais le père essaye de donner le pain à l'enfant, mais le démon n'est pas du tout d'accord. Pas du tout. Donc, alors, le père emploie toutes sortes de... Il coupe le pain un petit morceau, il le met dans la bouillie, il fait toutes sortes de choses. Enfin, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'il trouve la ruse nécessaire pour faire avaler le pain à l'enfant, qui guérit aussitôt, puisque le démon est chassé.
Est-ce qu'on peut parler de la portée et du retentissement de ce livre au moment de sa première publication, qui remonte donc aux années 60, de ce livre-là, Les Moines d'Orient, d'André-Jean Festugière?
Je ne peux pas exactement vous dire quelle a été la portée du livre à ce moment-là. Je veux dire que le père Festugière était extrêmement célèbre à ce moment-là. Ça a été publié par les éditions du Cerf, qui était, l'éditeur dominicain. Vous savez, les dominicains avaient décidé, même avant la guerre, mais encore plus après la guerre, en créant ces éditions, de faire des presses universitaires chrétiennes, en quelque sorte. De fournir tous les moyens intellectuels dans toutes les sciences aux intellectuels chrétiens. Donc ça a eu certainement un retentissement. Mais ce qui est certain, c'est que les années 60, ce sont des années où on fait des tas de découvertes qui vont stimuler les études sur le monachisme. Première découverte, évidemment, Qumran. Vous voyez, les découvertes datent de 1944-1947, etc. Mais l'exploitation scientifique de ces textes très difficiles, c'est dans les années 60 que ça... Bon, donc on commence à s'apercevoir qu'il y a une question sur la vie communautaire en Palestine, ce qui est très important. Autrefois, on croyait que le monachisme était né en Égypte et pas du tout en Palestine. Et puis, on ne pensait pas que le monachisme pouvait avoir des racines juives. Vous voyez ? On ne pensait pas. Et puis, au même moment, on va découvrir en Égypte les manuscrits de Nag Hammadi que Paul-Hubert et Poirier et moi, nous avons publiés dans la bibliothèque de la Pléiade sur les gnostiques. Et là, on va tomber en plein dans des communautés pacomiennes.
Aujourd'hui, à qui s'adresse cette réédition des Moines d'Orient d'André-Jean Festugère, puisque la nouvelle édition est donc parue en 2025 ?
Écoutez, quand le père Festugère a soutenu sa thèse de doctorat sur Platon, il avait, comme président du jury, ou dans son jury, le traducteur de Platon dans la Pléiade, qui s'appelait Léon Robin, et qui était un très grand spécialiste de la philosophie. Et bien d'après le témoignage du père Saffray, au début de son intervention, Léon Robin a lu quelques pages de la thèse et il a fermé le livre et il a dit « Monsieur, vous êtes vraiment un homme de lettres ». Et c'est absolument vrai. Je veux dire, c'est absolument vrai. C'est un argument littéraire qui fait que ce livre peut avoir un double public. D'un côté, évidemment, tous les spécialistes des questions que nous avons évoquées sur les origines du christianisme, sur le monachisme comparatif, si vous voulez, sur le judaïsme hellénistique, sur voilà, toutes ces questions d'histoire des religions et d'histoire de la culture. De l'autre côté, certainement les gens qui sont attentifs, je dirais, à la précision du langage
et du style
et au bon usage de la réflexion.
Un grand merci Jean-Pierre May pour ces éclairages. Et donc je rappelle que ce sont les éditions des Belles Lettres qui rééditent ce volume des Moines d'Orient d'André-Jean Festugère. Le volume est assez considérable, mais il a l'avantage de compiler tous les volumes écrits par André-Jean Festugère dans le même ouvrage. Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.